passé.
Voilà, ça va maintenant. Ça va. Alors, donc, je sais que l'immeuble, ta famille l'habite depuis plusieurs générations. Est-ce que tu sais comment vous êtes arrivé là, en gros?
Comment je suis arrivé dans cet héritage?
En repartant éventuellement en repartant d'origine. Alors,
dans cet immeuble, il y a plusieurs sortes de gens qui appartiennent tous, bon, à la bourgeoisie, bien sûr, mais une bourgeoisie assez hétérogène. Hein. Je distinguerai trois groupes. Alors, les vieux habitants, il n'y en a plus, ils sont tous morts. Il y a de nouveaux locataires ou copropriétaires. Il y a une catégorie que je définirais comme des familles pas très friquées, mais bon, qui peuvent se permettre quand même de vivre dans le 17e. Alors ceux-là, ils peuvent rester un certain temps. Ils ont vocation à devenir de vieux locataires ou de vieux copropriétaires, mais à la fin de cette génération. Il y a une autre couche, alors qui se renouvelle constamment, ce sont des gens qu'on voit arriver comme locataires, mais surtout comme propriétaires, et qui, au bout de quelques années, vendent, sont déjà en ascension sociale et qui sont généralement des familles juives tunisiennes. Et puis, il y a nous, qui sommes là depuis 4 ou 5 générations, et qui sommes dans une sorte d'îlot, d'enclave, de réserve indienne, puisque nous occupons cet appartement qui a été habité par ma tante, qui a été habité par mes grands-parents et probablement par mes arrière-grands-parents. Et donc, j'en arrive à la réponse à la question. Comment ça a commencé? Alors, c'est les travaux haussmanniens. Un certain nombre de gens investissent, et notamment mon arrière-grand-père, qui est mexicain, qui passe la moitié de son temps en Europe, en Espagne et en France, et qui a de l'argent à investir. Parce qu'il c'est un exploitant agricole mexicain, il a gagné pas mal d'argent, il a de l'argent à investir, il investit à Barcelone, à Madrid et à Paris. Et donc, là, il acquiert plusieurs immeubles. Il les fait construire, mais parce qu'il y a un plan d'ensemble, on en construit, et lui investit. Je pense que tout ça fait partie d'un plan haussmannien dont il ne fixe pas les détails. Lui apporte l'argent, apporte le capital. Et c'est tout un bout de la rue, en réalité. Alors, il y a 4 ou 5 immeubles qui seront petit à petit vendus par mon grand-père, qui, lui, est dans cette famille celui qui dépense. Il y a celui qui a gagné et puis il y a celui qui...
C'est classique.
Qui dépend. qui est une sorte d'excentrique très prodigue, qui entretient des tas de gens, des artistes en déroute, des réfugiés, beaucoup de maîtresses, et qui dépense énormément d'argent. Alors qu'il y a toutes sortes de hobbies coûteux, comme la mécanique, l'aviation, etc. Et bon, qui pratiquement aura tout vendu, sauf deux immeubles. La légende veut que ces deux immeubles aient été cédés à ses deux filles, puisqu'il y avait deux filles, sous la menace d'une arme à feu brandie par ma grand-mère. Bon. Et maintenant, tu vas céder les deux, de manière à mettre ces deux immeubles à l'abri. Et dans la famille, il y a cette idée qu'il faut conserver la pierre, que même dans les plus grandes épreuves, il faut résister à la tentation de vendre. Mais évidemment, tout ça ne résiste pas au temps, et plus précisément au droit de succession. On arrive à la génération où, la génération de mes enfants, où ça serait déjà bien de rester propriétaire de ce qu'on occupe déjà. Donc, voilà, s'il y a cet appartement, nous tenons, ça c'est nous, et un autre appartement qui est occupé par ma fille aînée. Mes deux autres enfants, certes, sont également propriétaires, mais de studios. Pas de grands appartements, de studios.
Des chambres de bonne
qui ont été
aménagées. Ils ont eu des studios
voilà. Chics. Comme il se fait, oui. Aménagées, mansardées.
Et tout, monde, hein, vous avez envie de rester dans le quartier.
Alors, il y a une époque de ma vie où j'avais envie de fuir le quartier, la période où on rejette la famille, on veut surtout pas ressembler à tout ça. Et là, je trouve un certain charme à vivre dans les lieux dans lesquels a vécu ma grand-mère. J'aimerais bien percevoir son fantôme de temps en temps. Donc, voilà, c'est le ressourcement après le rejet. Tout ça s'est étalé sur les années.
Ah oui, mais ce quartier, il te plaît?
Écoute, moi, j'ai toujours l'idée d'autre chose, parce que je trouve que ce quartier n'est pas très amusant. Mais je dois dire que quand je rentre à l'écurie, je trouve ça tranquille et vraiment, c'est quand même vraiment un plaisir de rentrer.
Le quartier est beaucoup plus amusant.
Mais à vivre, je dois dire que ça manque de fantaisie.
Il est quand même beaucoup plus amusant que ce que j'ai connu entre 20 ans. Je trouvais ça terriblement ennuyeux. On y croisait que des gens très ennuyeux, très gris, qui me semblait très vieux.
Peut-être qu'à un moment, on devient aussi ennuyeux.
Oui, mais il y a des choses qui changent objectivement.
Non,
tous ces petits restaurants, les endroits.
Il y a beaucoup de jeunes bobos maintenant, parce qu'il y a des jeunes qui gagnent de l'argent, beaucoup d'argent rapidement.
Donc on commence à avoir des petites boutiques, des
On a beaucoup de bobos, on a beaucoup...
Donc, quand on s'est installé ici, quand on est revenu après... une escapade pour Jean-Éric d'une année à tout casser. J'avais une voisine de palier qui disait dans le quartier il n'y a que des plissés boutons. Les plissés boutons, c'était les merceries.
Oui.
Elle disait mais il n'y a que des plissés boutons. Et maintenant il n'y a plus de plissés boutons, il y a quelques bistrots. Mais enfin.
Non, mais
non,
y a
c'est
bon,
de plus en plus jeune. Hein. C'est un quartier qui rajeunit mais avec. Et qui reste néanmoins un peu ennuyeux, quoi. C'est pas vraiment...
Mais qu'est-ce qui vous manque, quand tu dis ennuyeux?
Il nous manque... écoute, tu fais le tour du quartier, tu fais le tour des boutiques de mode, de machin, qui sont les mêmes un peu partout, mais il n'y a pas le dépaysement du quartier latin, je sais pas, c'est peut-être parce que on apprécie plus un quartier dans lequel on va en visite. Tu sais, pendant des années, je prenais 3-4 jours de congé au milieu de l'hiver et on appelait ça prendre nos vacances à Paris. Et alors là, on foutait le camp sur la rive gauche et on allait à Saint-Julien-le-Pauvre, à Mouffetard, à machin.
Et c'était du tourisme.
C'était du tourisme à Paris, c'était plus joyeux, quoi, disons. Ici, c'est un quartier qui est...
Qu'est-ce qui nous manque? Il y avait un ciné-club qui a disparu.
Il n'y a plus de cinéma.
Il n'y a plus de cinéma du tout.
Ce quartier-là, vraiment, il n'y a plus de cinéma du tout.
Ah oui, d'accord.
Il faut aller sur les Champs-Élysées ou à Place Clichy. Et ça, il n'est pas question de marcher jusqu'à...
Par contre, il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas, qui existent aujourd'hui. Il y a des sushis, des restaurants chinois, des boutiques d'informatique, tout ça.
Donc on peut manger, mais pas de nourriture intellectuelle. En gros, c'est ça.
Non, il y a ni théâtre.
Il n'y a jamais eu beaucoup d'aliments intellectuels. Il y a quelques musées aussi.
Avenue de Bagram, il y avait des cinémas.
Il y avait des cinémas. Il y avait un ciné-club.
Pour aller au cinéma.
Le ciné-club où j'ai vu cette fois le 7e soir.
Il faut vraiment prendre le métro ou prendre sa voiture. Ouais. On peut pas aller au ciné.
D'accord. Et du coup, ça m'amène à une autre question, parce que vous avez dit à plusieurs reprises le quartier, mais c'est quoi le quartier?
C'est un quartier. Le quartier, c'est comme une île ou une presqu'île.
Alors,
tu as le, tu vois
comment tu le délimites, justement?
Alors, je le délimite rue de Courcelles. Rue de Courcelles, boulevard de Courcelles, avenue des Ternes et retour par la rue Pierre-de-Moreau.
Et aussi par opposition à une autre partie du 17e qui est beaucoup plus populaire et alors pour le coup beaucoup plus amusante, qui est les Batignolles.
Mais il est plus très populaire,
il est en train de se gentrifier.
Il s'est boboisé sérieux.
Avec le parc et
Mais est-ce que la définition du quartier...
en construction, là, le grand...
Non, moi, je vois vraiment ce quartier comme une île, quoi. C'est
oui,
vraiment...
mais est-ce que ça correspond au quartier tel qu'il est défini, par exemple, par la mairie? Parce que je crois que la mairie...
Non, pas du tout. Ça correspond à la définition que j'en fais. C'est ce que je peux faire à pied dans une après-midi. C'est le circuit que je fais à pied.
Et les agents immobiliers ont un mot, quand même. Ils appellent ça la plaine Monceau.
La plaine Monceau, enfin oui, c'est ça, la plaine Monceau.
Ils appellent ça la plaine Monceau.
On peut encore faire
aussi
le quartier.
Et nous aussi. Nous, on n'appelle peut-être pas ça la plaine Monceau, mais ça correspond. Les limites sont bien celles du quartier perçu.
Vous lui donnez un nom? Si on dit où est-ce que vous habitez?
Non, nous, on dirait on habite dans le 17e, côté bourgeois. Je crois que c'est ça qu'on dirait.
Côté. Oui,
par opposition à Batignolles. Ce qui est sociologiquement faux, parce que Batignolles, maintenant, est bourgeois aussi, mais d'une autre façon.
Mais tu vois, on peut prendre le 84. Tu arrives au Luxembourg, enfin, côté quartier latin, tu te rends compte que en traversant le Luxembourg, tu es à Montparnasse, il y a tous les cinémas, tout est accessible à pied. Ici, nous, il ne nous viendrait jamais à l'idée de monter, franchement, deux fois par an, on monte sur les Champs-Élysées au cinéma. Et encore avec les enfants pour voir des dessins animés, quoi. Pas pour le plaisir d'aller au cinéma. Parce que le cinéma, ça correspond quand même à une balade. Tu vas. Non ?
Mais. Donc vous migrez très rarement en même temps dans d'autres
coins.
Ce qui
nous manque peut-être.
De ce quartier, vous n'êtes pas de Paris, on va dire, ou de la rive droite. Ou...
Ah non, non, nous, on est. Moi, je suis extrêmement parisienne. Moi, je me sens propriétaire de Paris, même.
Donc, toi, tu bouges beaucoup.
Ah oui, oui, oui. Bah, j'ai plus de voiture depuis un an. Mais quand j'étais dans ma voiture, c'est comme si j'avais été à cheval. Je me balade dans Paris. Paris est à moi, quoi.
Et toi?
Moi, je suis complètement bipolaire. C'est-à-dire, il y a mon petit quartier. Et puis, il y a le quartier où j'ai pratiquement toujours travaillé, qui est le Palais Royal. Et tout le reste m'est très largement inconnu.
Le quartier latin.
Oui. Mais qui correspond à une période de ma vie. Mais pour le reste, j'étais entre le Palais Royal et ici. Et tout le reste, c'était incognita.
Bon, enfin bref, entre le Palais Royal
et tout le reste est exotique.
C'est pas trop dur pour nous. Disons.
Tout le reste est des paysans.
Ce qui nous manque, c'est l'aspect un peu populaire, justement. C'est sûrement ce qu'on recherche. Parce que moi, quand je vais me balader aux Abbesses, au marché Saint-Pierre et tout ça, j'adore. Me ressourcer dans des quartiers plus populaires.
Les Abbesses, pour moi, c'est plus exotique que Mexico. On a vécu un an, on retourne de temps en temps.
Donc, tu ne vas pas aux Abbesses, toi?
J'adore y aller. Je trouve ça extraordinairement dépaysant.
Il y va si je l'emmène, mais pas comme ça. Il n'a rien à y faire.
Bah, de peur de m'y perdre, oui, j'y vais accompagné. Ouais.
Tu comprends bien que nous, on a deux trucs différents. C'est que moi, c'est purement loisir, et lui, c'est uniquement labeur.
D'accord.
Donc, on n'a pas du tout de problème sur Paris.
Moi, j'ai toujours vécu ici. C'est un peu différent. Elle a grandi à Saint-Ouen, dans une banlieue populaire. Et donc, elle a fait ce chemin de Saint-Ouen dans le 17e arrondissement. C'était un 17e arrondissement d'adoption, alors que moi, je suis... Le cas assez rare quand même de 17e arrondissement enraciné, et enraciné depuis plusieurs générations, atavique.
Et alors, dans ce 17e, est-ce qu'il y a des endroits où tu vas tous les jours, une fois par semaine, une fois de temps en temps?
Tu veux dire à Monoprix, chercher
oui,
à la boulangerie
le coin. Est-ce que tu vas chercher le pain tous les jours?
Il va repenser de temps en temps.
On va au parc Monceau, on va sur la coulée verte.
La
coulée verte.
C'est le boulevard Perrer, là.
Le boulevard Perrer.
Qui
était très bien fait. Et puis, il y a des endroits un peu magiques, comme le musée Cernucci.
On a plein de petits musées, mais on en profite assez peu parce qu'on est...
J'adore me balader dans les parages du lycée Carnot. J'ai fait mes études en espérant là encore ressusciter des fantômes.
Qui ressuscitent?
De temps en temps, oui, j'ai quelques visions fugaces.
D'autres qui se promènent aussi autour.
Voilà.
Est-ce que vous vous souvenez l'un ou l'autre d'événements, d'incidents qui ont marqué l'histoire
Du quartier?
Du quartier ou de la rue, enfin, que vous avez vu.
Une des caractéristiques.
Si, Rachida Dati, elle habitait l'immeuble à côté.
Non, non, mais ça, c'était pas un événement, mais un incident. Non, on a eu des gens qui habitaient là, qui étaient connus. Mais un incident en défrayant la chronique, quelque chose qui rompt l'ordinaire. Ben, la caractéristique de ce quartier, c'est qu'il, justement, il ne se passe jamais d'incident de ce type.
Si, il doit y en avoir. Parce
notamment,
que...
on est à l'abri des remous populaires.
C'est pas vrai parce que.
Des insurrections et des levées de barricades. Bon,
On a eu un crime quand même. On a eu un crime dans la rue Marguerite, là, juste à côté.
Vous avez assisté au crime?
Ah non, non, on n'a pas assisté, mais tout le monde en a parlé. C'est tout, je veux dire. Non, c'est un quartier qui est relativement.
Qui est quand même en retrait du flux des événements et des espaces historiques.
Un incendie épouvantable qui met tout le monde dehors, pourrait... et non, des voisins.
Ah si, il y a eu l'effondrement du parking Banville, là, qui a fait beaucoup de morts.
L'événement notable, c'est l'effondrement du garage qui se trouvait, du garage parking qui se trouvait au bout de la rue.
Alors, vous étiez là?
Alors, moi, j'étais là, oui. J'étais là, j'ai vu arriver le nuage de poussière. Ah ben, c'était comme un tremblement de terre. Hein. Ah, donc, oui. Le temps que je me mette à la fenêtre, j'ai vu arriver le nuage de poussière.
Quand tu as vécu ça, comme tous les gens qui vivent des événements tragiques, c'est-à-dire elle a entendu un grand bruit. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, elle a vu un grand nuage.
Oui.
Et troisièmement, elle a appris ensuite que c'était dramatique, parce qu'il y a eu quand même des morts.
Il y a eu 7 ou 8.
Oui, alors ça, c'est vraiment l'événement dramatique qui a eu lieu, comme il peut se produire une chute de météorite. Mais normalement, c'est un quartier qui est immunisé contre l'événementiel, et surtout l'événementiel tragique.
Et est-ce qu'il y a eu un jour une raison qui fait qu'un collectif de voisins, d'habitants soit constitué?
Tu veux dire qu'on ait des problèmes dans l'immeuble ou des choses comme ça?
De quelque ordre que ce soit, ça peut être je reviens, alors évidemment l'effondrement d'un parking, il n'y a pas des gens à reloger.
Non. Mais... non, on est dans un quartier qui socialement ne présente pas tellement de problèmes, pas du tout même.
Donc vous êtes une série d'individus
à part ce qui les deux ou trois types.
Il faudrait imaginer un péril extérieur contre lequel se fédèrent des gens qui sont par ailleurs profondément individualistes. Alors on pourrait imaginer l'imposition d'un camp de réfugiés, par exemple. Là, j'imagine qu'un certain nombre de gens dans le quartier. Se fédérerait.
Trop, il pourrait le mettre.
Les deux ou trois types qui dorment sur les bouches de métro dans la rue. Parce qu'il y en a une bouche de métro.
Oui,
là, il y a les gens.
Non, mais là, je pensais
au
camp de réfugiés qui s'installerait.
Oui,
qu'on installerait sur le parc Monceau. Imaginons que le parc Monceau soit réquisitionné pour installer un camp de réfugiés. Là, j'imagine que les habitants se fédéreraient, se constitueraient en ligue.
Donc vous n'avez pas eu de constitution de ligue.
Mais une telle menace ne s'étant pas produite, ce risque de ligue ne s'est pas réalisé.
On est passé avec Sonia.
Vous êtes venu en voiture?
Non,
on n'est pas venu en voiture. Mais un jour, on est passé à Barbès au moment où les gens avaient été chassés de Calais, sont arrivés et s'installer là. Et c'était une vision. La première chose qu'on a dite, c'était mais ça ne peut pas laisser les choses comme ça.
Écoute, nous, notre fille, elle prend le métro tous les jours pour aller porte de Pantin, puisque son agence s'est installée à Pantin. Et je dois dire que je redoute ces changements de métro à Barbès, etc.
Une des caractéristiques de ce quartier, c'est qu'on est vite quand même en contact avec l'autre monde.
Ouais.
Hein, il suffit de prendre le métro en 2-3 stations, etc.
Ouais.
C'est
comme une bulle ici.
C'est une bulle, mais dont les parois sont assez fragiles.
Parce qu'on est quand
même assez poreuse.
On est longé par le boulevard extérieur, quand même. Mm-hmm. Tu vois, après la place Pérère, là, tu descends,
une des hantises des copropriétaires, des locataires ici, c'est le SDF qui vient s'installer dans le hall. Mm-hmm. Il passe la porte, il franchit la porte et qui s'installe, et qu'est-ce qu'on fait?
Quand tu dis une des hantises, tu veux dire que c'est évoqué dans des réunions?
C'est déjà arrivé. Non, pas des réunions, parce que ça n'a jamais été jusque-là. Mais c'est arrivé plusieurs fois que des gens essaient.
C'est une idée qui doit beaucoup hanté les gens quand ils travaillent. Ils se disent, au fond, on a mis cette porte, il y a un mot de passe, mais si le mot de passe était connu des miséreux, qui empêcherait surtout en hiver un SDF
là,
de s'installer.
Tu fais des récits fantasmatiques qui te sont propres, il n'y a rien.
Je suis persuadé que ce fantasme.
Non, parce que.
En plus, il s'est réalisé.
Ça s'est déjà passé.
Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Oui, qu'est-ce que vous avez fait?
Parce que d'un côté, on ne peut pas chasser le malheureux, le repousser vers l'hiver. D'autre côté, il n'est pas question de le laisser s'installer dans le hall. Alors, on le paye.
Vous payez quoi?
On lui donne une somme d'argent pour qu'il veuille bien déguerpir.
Attends, tu te montres sous ton plus mauvais jour là.
Non, j'essaye d'être sincère et loyal et de répondre.
C'est ce que tu imagines.
C'est ce que nous avions fait.
Non, c'est toi. Moi, j'ai jamais rien fait du tout.
C'est ce que nous avions fait il y a une dizaine d'années. Le risque s'est réalisé. Le type s'était installé. Une somme qui était d'ailleurs assez rondelette. C'est aussi un appel d'air, c'est-à-dire que si la chose se sait, d'autres SDF viennent et ça c'est le danger. Donc on est bien obligé à un moment ou à un autre.
Vous n'êtes pas. Il n'y a pas eu de concertation. Oui, alors là c'est des réactions.
Mais les quelques personnes présentes étaient bien d'accord sur le fait qu'il fallait agir vite. D'une manière ou d'une autre, et si possible, d'une manière pas trop brutale. Mais la brutalité aurait peut-être été nécessaire au bout d'un moment.
Le quartier est en pleine mutation, parce qu'on est en train de s'installer ici, en fait, tous les anciens de la rue des Rosiers.
Qui sont en ascension sociale.
Nous, on n'a rien contre.
Et pour eux, ils sont commerçants.
Non, ils ne sont pas commerçants, ils vivent ici maintenant.
Oui.
Ils ont gagné assez d'argent pour vivre ici.
Ah, d'accord.
On voit bien que ça n'est qu'une étape de leur ascension sociale.
C'est pas assez bien.
Surtout, on voit la communautarisation.
C'est incroyable comme c'est.
Vous voulez dire que ce sont des gens qui sont religieux et que, par exemple, ils ne veulent pas ouvrir les portes, il faut laisser la porte ouverte le vendredi.
Le vendredi, ils ne toucheront pas le bouton de la porte. Ils s'entreguettent par les fenêtres.
Il faudra aussi laisser la porte ouverte.
Mais
ça fait partie des accommodements raisonnables. Le reste de l'immeuble étant constitué de gens qui vont à la messe. Bon,
à égalité, on
ce qui est drôle, c'est que
topographiquement,
il y a trois étages.
Et donc vous arrivez
de juifs pieds-noirs et trois
gentiment.
Étages
ah,
de cathos bons gens. Ça cohabite très bien.
Ça cohabite comme ça devrait cohabiter dans toute la France.
Enfin, je veux dire, c'est la tradition judéo-chrétienne.
Ça n'a rien à voir.
Dans les étages, pour anticiper la question suivante, il n'y a que des Philippins. Donc, il n'y a pas de présence musulmane dans cet immeuble. Ni d'ailleurs pas beaucoup dans les chambres de bonne.
S'occupent des petits enfants dès qu'on est à l'ouest des Philippins.
Voilà, des Philippins, accessoirement des latino-américains. Mais voilà, donc ça reste complètement judéo-chrétien.
Souvent des africaines. Ah oui. Par exemple, place de la Nation, quand on voit les gens se promener avec des petits enfants ou des dames.
Beaucoup
âgées,
d'ivoiriennes.
Des Sénégalais.
Ici aussi, mais c'est essentiellement
des Philippines et des latino-américains.
Ici, tu le vois beaucoup
on
à la sortie des écoles.
Des latino-américains aussi. Dans les chambres de bonne au-dessus de chez nous.
Pas comme gardien d'enfants.
Non, je ne sais pas.
Moi, j'ai connu les dames du 7e qui étaient des Espagnols et qui ont passé le relais au.
Les dames du 6e, c'est le film de Lucchini. Qu'il l'a fait après avoir vécu ici, son film.
Donc il connaissait effectivement les dames du 7e.
Ah oui, oui. Nos dames du 7e, à nous. Il y a une certaine continuité. Tout ça reste très hispanique.
Toutes les chambres de bonne sont occupées par des Philippines. Sauf celles qu'on a sauvées pour nos enfants.
D'accord.
Les deux ou trois qu'on a sauvées pour les enfants.
Bon, on a une Colombienne et une Espagnole. Et une brésilienne.
D'accord, ça fait beaucoup de chambres de bonne.
Ben, il y en a beaucoup parce qu'il y a deux étages de chambres de bonne dans ces immeubles.
Voilà, j'ai essayé de compter, je me disais ça va
pas. Il y a deux étages.
Alors, sauf celles qui ont été aménagées, mansardées pour les enfants. Pas seulement les nôtres.
D'accord.
Alors, pour continuer, dans les grandes oppositions de la ville, vous fonctionnez sur lesquelles? Vous avez dit populaire, bourgeois, mais je vais parler un peu de la rive gauche.
Bon, rive gauche, rive droite, oui.
Rive gauche, rive droite. Oui. Plus que l'est ou ouest.
Ici, c'est moins du bobo classique que rive gauche, ça c'est clair. Mm. C'est plus du bourgeois classique. Mm. Bourgeois classique, mais bourgeois. Mm. Là-bas, c'est bobo classique. Bobo gauche.
Oui. L'est vote à gauche, voilà. Effectivement. Mais donc, les grandes oppositions, c'est encore est ou gauche-droite,
est-ouest, quartier chic, quartier populaire, rive gauche, rive droite.
Rive gauche, rive droite, ça existe.
Périphérique.
Ah oui. D'ailleurs, toutes mes copines qui habitent rive gauche, je te dis tout de suite qu'elles ont un mal de chien à traverser la Seine. Mmh. Elles ne viennent jamais. Nous, on va toujours rive gauche. Mais elles ne viennent jamais rive droite.
C'est incroyable. Au thème précédent, voilà. Le 17e est ennuyeux.
Ennuyeux. C'est toi qui l'as dit. On ne va pas avoir des gens ennuyeux. C'est une contrée ennuyeuse dans laquelle on ne va pas.
Je le trouve très ennuyeux, mais maintenant, plus je vieillis, plus j'apprécie quand je rentre à l'écurie de trouver les avenues calmes. Tu vois, il y a... Mmh, mmh. On est cerné de très grandes avenues comme Malesherbes, Villiers, etc., qui sont calmes.
C'est un Paris assez aéré. Hein. C'est un Paris aéré.
De ce côté-là, on peut dire qu'on est...
Oui, aéré, mais pas tant d'espace vert que ça.
Si, il y en a quand même. Il y en a quand même pas mal.
On a la coulée verte maintenant, si on est quand même...
Il faut que j'aille voir votre coulée verte.
Et avec des zones plus denses, qui sont par exemple les marchés.
Oui.
On a quand même des enclaves dans ce quartier un peu ennuyeux. On a quand même des enclaves pittoresques comme le marché Poncetet qui est un endroit. Alors pour le coup, je ne sais pas si on peut dire populaire, mais en tout cas très coloré.
Non, c'est pas populaire du tout. Mais par contre, c'est
grouillant, c'est coloré, c'est gouailleur.
C'est jeune. Et là, tu t'aperçois que c'est les jeunes beaux.
Nos amis américains sont enchantés, ils disent ça, c'est le Paris dont on a rêvé.
Peut-être maintenant, mais je ne crois pas que tu allais au marché beaucoup.
Je me rejoins pour tirer la charrette quand j'appelle au coin de la rue.
Toi, tu vas au marché une fois par semaine?
Une fois de temps en temps, mais sans régularité. Non.
Et les courses, alors, c'est quoi?
C'est plutôt monop, puisqu'on n'a plus la chance d'avoir des petites épiceries. Autrefois, quand on était jeune, il y avait encore les épiceries, là, dans rue Gustave Flaubert et tout. Le quincaillier, l'épicerie, c'était formidable. Pittoresque. Alors là, pour le coup, c'était très pittoresque. Et non, maintenant, on va à Monoprix, on se fait livrer, il n'y a pas de problème, ou à Carrefour Market.
Mais ce marché, quand j'étais petit, j'étais un peu émerveillé, terrorisé par la gouaille des commerçants. Ouais. Les pregones, je sais comment on dit en espagnol, en français déjà, les pregones.
Les harangues.
Et j'ai l'esprit qu'ils y mettaient, etc. Et je trouvais que c'était du théâtre. Et ça s'est perpétué, y compris des gens qui sont visiblement... Ils viennent de l'autre côté de la Méditerranée, qui ont repris cette tradition avec la même gouaille, le même humour. Ouais. Finalement, on reste dans une Faconde parigote. Ça, c'est quand même la continuité.
Alors, c'est la Faconde.
Pas parigote, une Faconde nord-africaine.
Oui, c'est une Faconde nord. Maintenant, ils ont repris la tradition.
Mais qui s'est coulée dans un moule. Qui s'est coulée dans ce moule.
Il y a la Faconde parigote, mais en effet.
Réinterprétée
par des. Gens d'origine maghrébine.
Mais réinterprété avec beaucoup de talent et avec pas mal de fidélité.
Et alors, ce que je trouve très sympathique, mais c'est un peu comme au marché Saint-Pierre, c'est que là, toutes les confessions sont représentées. Tous les commerçants sont maghrébins. Tous les clients sont
pas
juifs.
Tous, pas tous.
Beaucoup.
Pas tous.
Ah, on repousse les.
Vous avez peut-être quelques maraîchers.
On a donné des cantaloupes.
Des poissonniers qui restent.
Ouais, ben, globalement, il y a beaucoup de tous les maraîchers. Non, alors pas les maraîchers, mais tous les vendeurs de fruits et légumes sont des.
Non, on en revient là. On retrouve ce qu'on constate partout, c'est que la diversité culturelle est beaucoup plus chatoyante et agréable lorsque le cadre est prospère. C'est dans une société prospère.
Les gens sont actifs.
La tolérance est beaucoup plus grande, la diversité a beaucoup de charme. C'est moins vrai dans un cadre plus tendu, cadre de économiquement
tous clients,
pauvre.
Tous les clients sont d'origine catholique, comme vous, gâteau de base, ou juifs tunisiens, et les vendeurs sont tous pratiquement maghrébins. Et il y a énormément de Philippins, et tout le monde s'entend très bien. Il y a beaucoup de chaleur humaine, c'est très sympathique.
Alors,
moi, quand je vais au marché Saint-Pierre, c'est ce que je retrouve.
D'accord.
Les commerçants sont tous juifs tunes. Alors, pour le coup, c'est les commerçants qui sont juifs tunisiens. Les acheteurs sont cathos ou maghrébins et tout le monde s'entend très bien. Donc, il y a un côté.
Oui, la seule chose, je reprendrai Jean-Éric sur l'idée que c'est plus tendu quand il n'y a pas la prospérité du 17e, parce que la plupart de mes interviews du 11e et du 20e disent qu'il fait bon vivre dans le quartier, les gens sont très...
Acte,
et qu'ils apprécient le mélange. Ça ne veut pas dire que de temps en temps...
Non, mais du moment que tu es dans Paris intramuros, globalement, ça se passe bien, écoute.
Oui, je pense. C'est les quartiers
sensibles,
comme on dit.
Non, mais même les quartiers sensibles sont pas. Sont
il y a des crispations communautaires dans les quartiers sensibles.
Dans les sensibles, oui.
Il y en a quelques-uns.
Dans certains quartiers des quartiers sensibles.
Oui, voilà. Dans certains endroits des quartiers sensibles. Mais globalement, même dans le 19e et le 20e, il y a énormément de quartiers qui sont privilégiés, qui sont très sympathiques. Hein, si tu vas vers la porte de Bagnolet, la campagne à Paris, tous ces quartiers. Écoute, nous, nos enfants travaillaient aux portes de Bagnolet dans une imprimerie et dans une école. Et franchement, alors c'est pas le vieux bourgeois tradit comme ici, mais c'est un autre bourgeois.
Oui, c'est souvent les enfants des vieux bourgeois qui ne peuvent pas habiter dans le 17e et qui donc...
Dès qu'on est dans Paris intramuros,
il faut de l'argent.
On est quand même,
sinon, on est très pauvres. Hein. Il y a quand même beaucoup de gens extrêmement pauvres qui vivent dans des garnis, qui s'entassent.
Ouais,
il y a quand même deux populations.
Ah oui, mais c'est des gens qui sont
arrivés
récemment.
Ça, c'est quelque chose qui existait dans ce quartier. Il y avait en effet une grande pauvreté cachée, presque clandestine. On la découvrait souvent quand il s'agissait d'une vieille dame qui mourait, on s'aperçoit qu'elle vivait dans la misère. Et là, il me semble que ça n'existe plus. Par contre, ce qui existe, c'est en effet la suroccupation de chambres de bonne par des Philippins, ça existe. Et puis les SDF dans la rue, ça oui.
Les SDF dans la rue et les Philippins qui s'entassent, ouais, ça. Il n'y a aucun contrôle des Philippins.
Du coup, je vais anticiper. Enfin, tu sais très bien, tu fais les questions qu'il faut se poser sur la crise et les manifestations de la crise dans votre quartier. Donc, la mondialisation, les deux aspects.
SDF, ça c'est très 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 net. On n'avait jamais vu de tente. Il y avait, quand j'étais petit...
Parce que même ici, on a beaucoup de tentes, hein, quand même.
Quand j'étais petit, il y avait deux clochards qu'on connaissait. On appelait par leur prénom. C'est tout. Et là,
de métro sont occupées par
les tentes que tu vois.
Là, ici, dans la rue Théodore de Banville, Carrefour Vagram-Concel, tu as des gens qui dorment sur toutes les bouches.
Deux personnes dans la rue. Alors, ça nous explose à la figure. Et puis dès qu'on va dans le métro, je me souviens du métro quand j'allais au lycée, c'était un endroit plutôt, il y avait deux classes, vous vous souvenez, un endroit tout à fait tranquille. Là, il y a des gens qui dorment sur les quais.
Puis Puis surtout, il y a des, tu as des, toi qui travailles,
il y a une vibration de misère qui n'existait pas du tout.
Il y a des gens qui font la manche et qui sont là depuis des années.
La séparation dont tu parlais,
c'est le sol, le sous-sol.
Il y en a un peu partout.
Il suffit de prendre le métro. Donc, ouais. Là,
c'est l'impression que
j'ai une séparation verticale.
Hier, je suis rentrée en autobus en 84 et je me disais, j'étais dans l'autobus et je me disais,
à Paris du sous-sol,
il y a la population du dessus.
D'accord.
La complètement blanche, là, quand tu traverses avec le 84, tu traverses Paris en revenant du quartier latin.
Blanche et aisée.
Et blanche, il y a une population du dessus et il y a la population du dessous. Parce que si tu prends le métro, tu peux considérer qu'il n'y a plus beaucoup de blancs.
Non, mais surtout, il y a beaucoup de pauvres.
En tout cas, il y a
pauvres.
Les pauvres.
Il y a beaucoup de pauvres, oui.
Mais c'est deux populations.
Pour l'instant, vous parlez de sa deuxième population comme une altérité lointaine. Ça nous embête, ça...
Non, on n'a pas dit que ça nous embêtait.
Non, ça oui, nous c'est embête. Ça dit... C'est pas ça que je veux dire.
Ça nous interpelle, surtout.
On est là, on n'est pas à l'aise.
Là, on est dans un quartier hyper gâté.
Est-ce que dans ce quartier, la crise... touche ou pas des gens du quartier,
sûrement les commerçants, les
oui. Alors ça c'est un phénomène beaucoup plus discret, mais qui est notable quand même. Ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait qu'un locataire ne peut plus payer son loyer.
Dans nos immeubles, il y a plusieurs locataires qui ne
payent plus
leur loyer.
Aucun copropriétaire est obligé de vendre parce que ses affaires vont mal. Et donc c'est la déconfiture qui frappe un voisin. Avec des tensions, parce qu'il va commencer par ne pas payer les charges de copropriété.
Beaucoup de gens ne payent plus leur loyer. Dans l'immeuble à côté, il y a une...
Des problèmes humains, ça peut être des gens qu'on aime bien, mais on va évidemment être patient. Et il y a un moment au bout duquel on se dit, non, on ne va pas les maintenir à flot. Et donc les copropriétaires, commencent à se fâcher. Et puis... Nous, on a eu un problème avec un des derniers appartements qu'on a vendu, était occupé par une dame qui était une amie d'ailleurs, une vieille amie qui ne payait plus son loyer
et
qui ne partait pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on doit payer des charges, quand on a payé des frais de succession et qu'on n'a pas la disposition?
C'était un appartement qui était imposé à 50% et elle ne partait pas. Elle était obligée de payer 50% ou tu sors 50% d'un appartement.
Et on a fait comme pour le SDF, c'est-à-dire qu'on s'est, on s'est cotisé pour eux. Mais ça a duré 2 ans quand même. Alors là, on sent la crise aussi. C'est à bas bruit, ça n'est pas aussi spectaculaire, aussi stressant qu'un SDF qui s'installe dans votre hall. Mais ça aussi, c'est la crise.
Et la nouvelle génération, les enfants, 20 ans, 30 ans, pas les vôtres spécialement, non, mais en général, quoi, les enfants de vos amis, ils sont touchés.
Les enfants des amis.
Métier qui ne rapporte plus rien.
Ah, dans toutes les familles, là, on a constaté des difficultés, ou pour les uns ou pour les autres. Il n'y a pas une famille.
Non, mais il y a deux profils surtout. Il y a le profil des enfants qui réussissent et qui souvent vont à l'étranger. Donc ils partent.
Ah, oui, il y a beaucoup d'enfants qui sont partis.
Peut-être en province, mais surtout beaucoup en Angleterre, aux États-Unis. Et puis à ceux
même
qui
latine,
il y a les enfants qui ont du mal et qui continuent les petits tanguis. On a des tanguis autour de nous.
Bah, à commencer par nous.
À commencer par notre fille. Notre
nous
fils.
On a un fils qui vit ici parce qu'avec un truc de prof d'art, il ne vit pas quoi.
En tout cas, pas dans Paris. Ça, c'est clair. Oui.
Qu'est-ce que tu veux que je remette? Attends, chérie, parce que
j'ai foutu
des lunettes.
Assieds-toi.
J'ai cherché mes lunettes là-bas, sur la table de nuit.
Alors, je sais que vous avez des tas d'amis du monde entier, plutôt Amérique latine.
Ouais.
Oui.
Est-ce que, parmi tous ces nouveaux arrivants à Paris,
merci.
Si.
Vous avez des amis, est-ce que vous avez des amis noirs, est-ce que vous avez des amis maghrébins, est-ce que vous avez...
Moi, toutes mes copines sont maghrébines.
Non, mais
ou algérienne ou juive tunisienne.
La caractéristique de cet immeuble étant nous, la famille propriétaire,
ah, mais c'est fini,
donc de beaucoup de chambres de bonne, c'est qu'on a beaucoup hébergé de gens qui pouvaient être en difficulté. Ça a commencé avec mes grands-parents qui ont accueilli beaucoup de réfugiés espagnols. Il y a eu beaucoup de réfugiés chiliens, argentins. Beaucoup d'amis se sont installés. Bon, on a mis à disposition une chambre pendant quelques mois. Ça a pris un an, deux ans, trois ans. Donc, mais ça, on pouvait se le permettre. C'est une générosité qui ne nous coûtait pas cher et qui mettait de la gaieté dans la vie familiale. On a toujours eu des gens qui étaient un peu des pièces rapportées et qui en retour payaient la famille de leur gaieté, de leur joie de vivre, etc. Donc ça, c'était une tradition sympathique qui est maintenue jusqu'à aujourd'hui. Il s'agissait essentiellement d'Espagnols et Latino-Américains, mais on a eu aussi des Américains. Est-ce qu'on a eu tellement d'Africains? Ça ne s'est pas trouvé, mais il ne faut pas y voir le signe d'une discrimination. Ça ne s'est pas tellement trouvé. Des Maghrébins, oui. Beaucoup de Maghrébins, oui.
On fait partie d'une génération quand même où il n'y avait pas cette discrimination. Moi, mes copines au lycée, elles étaient algériennes, tunisiennes.
Mais
tout le monde s'entendait très bien. Il n'y avait absolument aucune...
Et puis,
oui. En même temps, vous n'êtes quand même pas si fréquent que ça, comme attitude, parce que beaucoup de gens racontent des histoires de coexistence sympathique, mais coexistence de groupes qui restent quand même relativement séparés. D'endroits. Non, on constate que finalement, on n'a pas de copine algérienne.
Toi ?
D'origine.
Ma famille avait une culture de l'hospitalité.
J'ai eu des étudiants venant d'un peu partout. Alors oui, j'ai gardé des étudiants.
J'aime bien les grands-pères.
Passer par la maison.
Tes lunettes sont pas...
L'âge du grand-père, je ne suis pas
grand-père. Mais ma famille a une culture de l'hospitalité, bon, elle pouvait se le permettre aussi. Et je pense que ça les amusait. Bon, ma mère, c'était aussi par dévouement chrétien. Et mon père, ça l'amusait. C'était un élément de standing aussi, d'avoir des pièces rapportées dehors du monde à table. Qui étaient... bon.
Jean Fourne.
Ce que je constate, alors là, c'est plus le quartier, là, on parle plus seulement du quartier, on parle de la France en général, et c'est qu'en effet, les étrangers, lorsqu'ils viennent en stage, par exemple, disent qu'ils sont bien reçus, que professionnellement, il n'y a pas de problème, mais que sur le plan des rapports personnels, il y a quand même un grand manque, c'est-à-dire que personne ne va penser... Ne serait-ce qu'à les inviter
sont
à
seuls et qu'il faut donc les inviter le soir.
J'ai eu des tas d'échos avec des Américains, des Latino-Américains qui disaient c'est quand même bizarre, les Français, on n'a aucun contact.
Ils n'invitent pas.
Alors que réciproquement, bien sûr qu'on serait invité dans la même situation réciproque, on serait invité.
Ouais. Mais alors, je pense que ça vient peut-être à Paris, il y a un problème de place chez les gens.
Alors, est-ce que c'est spécifiquement parisien ou est-ce que c'est
non,
plus largement français ?
Non, c'est pas spécifiquement
parisien. Plus général.
Parce que Sonia, qui est invitée aussi très facilement, les collègues étrangers qui passaient par Aix-en-Provence ou même à Paris, au fond, les gens disaient qu'ils étaient très contents parce que, en gros, les autres n'invitaient pas.
À toi à parler de communauté catholique, on a quelque chose d'une communauté catholique
Non mais on parle de communauté catholique, on parlais pas du tout de communauté catholique il y a 20-30 ans.
Oui.
Mais je constate que de plus en plus, on a tendance à assigner les gens à une communauté, disons, socio-religieuse, ethno-religieuse, etc. C'est un phénomène relativement...
Mais ça marche chez vous aussi.
Ben, on éprouve le besoin de décerner cette étiquette. Moi, je trouve ça personnellement assez dérangeant, mais on se situe beaucoup plus dans ces catégories-là. Quand j'étais enfant au lycée, on n'avait aucune notion de l'appartenance, disons, d'origine. C'était pas pertinent, c'était pas intéressant. Il y avait au lycée Carnot, je me souviens, une sorte de, quand même, de clivage entre croyants et incroyants. Les enfants de familles athées, les enfants de familles croyantes. Vaguement. Ça, aujourd'hui, c'est fou ce que les origines ethniques et religieuses sont prégnantes.
Et donc, chez les...
Et par contamination, par contagion...
Les enfants, ça va jouer un rôle? Ils vont s'identifier comme ça?
Ben, on entend les petits-enfants dire « Et nous, qu'est-ce qu'on est ? Et nous, qu'est-ce qu'on est ?» C'est... Bon, on est encore... Alors, c'est là où le facteur quartier joue quand même, parce que je vois à l'école de où vont mes petits-enfants, c'est quand même... Alors là, pour le coup, c'est une grande mixité. Une grande mixité. Il me semble que ça fonctionne quand même, grosso modo, comme à mon époque. C'est-à-dire que les enfants ne font pas attention. Ils font d'autant moins attention qu'ils sont beaucoup plus habitués à la diversité, à l'apparence, à la diversité des apparences physiques. Donc là, il semblerait que qu'on n'est pas dans le communautarisme du tout, mais ça ressurgit, voilà, par la télévision, ça ressurgit par l'actualité. Les petits-enfants, à propos des attentats, ils disent pourquoi ils veulent nous tuer, est-ce qu'ils veulent tuer tout, et qui sommes-nous, nous, pour qu'on veuille nous tuer, voilà, c'est des choses qui...
Mais tu les entends s'identifier comme catholiques, peut-être qu'ils vont d'ailleurs, qu'ils ont une éducation religieuse et
Ils n'en ont pas, et ils ne s'identifient pas comme ça, mais... Ils pensent qu'on les identifie, quelque part on les identifie comme ça. Ils pensent qu'ils sont, catégorisés comme ça par les petits copains, par certains petits copains, etc.
Là, il y a comme ça, plus qu'ethniquement, catholique, plus que gaulois, par exemple, blanc, dans les quartiers populaires, on dit les gaulois, tu sais.
Oui, oui. Chez mes petits-enfants, ça n'apparaît pas. De ce point de vue-là, rien n'a changé. En plus, dans ma famille, il y a quand même des enfants adoptés. J'ai une petite nièce qui est à moitié sénégalaise. Donc, ils ont l'habitude. Ils raisonnent moins en termes d'apparence physique ou de religion, de la religion, quelque chose d'incertain, que par rapport à ce qui ressort d'une actualité angoissante. C'est-à-dire,
il y a des
gens qui veulent nous tuer. Qui sont-ils pour vouloir nous tuer? Qui sommes-nous pour qu'on veuille nous tuer? Voilà. C'est une sorte d'identité victimaire, mais imprécise. Si on veut nous tuer, c'est qu'on est quelque chose dont on n'a pas très bien conscience. Voilà.
Et cette angoisse-là, vous la ressentez?
Chez les petits-enfants, oui.
Oui. Et alors, l'école, tu as parlé de l'école, d'une école qui n'a pas trop bougé, d'une école où ça se passe bien, t'en penses quoi de l'école, en gros?
Alors, si on devait juger tout le système éducatif français, c'est l'enseignement public, hein, puisqu'on est dans l'école... public, par l'école du 17e arrondissement, on dirait où est la crise? Où est la crise? On a des instituteurs dévoués, on a une vie parents d'élèves, on a des petits-enfants. Bon, ça n'a jamais été aussi divers, ça s'est jamais aussi bien mélangé, et les résultats scolaires sont pas mauvais. Il n'y a pas de crise de l'éducation si on devait extrapoler à partir de...
Ils sont à l'école primaire pour l'instant.
Primaire, oui. Ah, je parle
de
l'école primaire.
Aucun n'est au collège.
Oui. Et on est ravis de cette école.
Les langues étrangères, chez vous, qu'est-ce qu'ils apprennent? Le français, ils sont bilingues, espagnol...
Non, on est la dernière, moi je suis la dernière génération qui parlait espagnol à la maison, c'est plus vrai de mes enfants. Alors, ils l'ont appris parce qu'il y en a une qui vit au Mexique, et puis les deux autres, il y en a un qui est amoureux de flamenco. Donc, bon, mais c'est pas du tout leur langue. Bon. Et ils parlent anglais, ils parlent globish comme tous les jeunes.
À 10 ans.
Non, là je parle de mes enfants. Alors maintenant, mes petits-enfants, non, mes petits-enfants, pour le moment, ne parlent ni anglais ni espagnol. Ils sont monolingues.
D'accord.
Ils sont monolingues.
Ça t'embête?
Je trouve ça un petit peu, oui, un petit peu frustrant, d'autant qu'ils sont suivis par une jeune fille espagnole adorable, mais qui s'obstine à leur parler français. Elle parle très très bien français, c'est beaucoup plus facile de leur parler français.
Bon. Oui.
Oui, je suis un petit peu frustré de voir que ça s'est perdu. Mmh. Une génération qui a largué les amarres. Alors, si elle les rétablit, si elle les réinvente, ça sera par volontarisme, ça sera pas un fait naturel.
Donc, je ne vais pas t'interroger sur ton travail parce que c'est trop identifiant. Simplement, on va dire sur les loisirs. Alors, est-ce qu'il y a eu beaucoup de loisirs pendant 40 ans, je ne sais pas.
Non, c'est très très atypique. C'est un métier totalement atypique qui était à la fois pas passionnant et complètement abrutissant et passionnant et qui ne m'a pas laissé du tout de loisirs. Donc là...
Ça fait un an.
Ça fait 8 mois maintenant que je suis à la retraite. Réapprendre... Réapprendre l'utilisation du temps. Une utilisation autonome, qui soit là, bon, si possible, enrichissante, pas complètement égoïste.
Alors, qu'est-ce que tu fais de ce temps?
Bon, on voyage beaucoup. Moi, je continue quand même un petit peu à faire des petites conférences, des articles, des choses comme ça. À lire beaucoup, à relire des romans. À me promener énormément et alors à bricoler on a alors ça a quelque chose à voir aussi avec l'immeuble et le quartier et je ne supportais plus d'avoir un appartement dont la peinture s'était boursouflée, dont tous les équipements informatiques étaient obsolètes, etc. Donc, on a remis tout ça à neuf. C'est un peu de la pensée magique aussi, c'est une façon de se dire, ça va peut-être induire en moi également une rénovation des réfectoires. Voilà, donc l'appartement, vous voyez, on a complètement repeint,
oui,
l'équipement informatique a été complètement remis à...
Sur des échafaudages pour arriver au
goût du jour.
Incroyablement haut.
Et puis alors on a une maison en Bretagne qu'on a retapée aussi, voilà.
D'accord, donc tu t'es investi dans le...
Quoi
dans le
d'autre? Faire un peu de halter, des haltères le matin. Hein? Et puis alors, la santé, parce qu'on commence à avoir des problèmes de santé, et ça devient une sorte de travail à temps partiel.
Plein temps, pas encore.
Mais temps partiel, c'est un véritable temps partiel.
Effectivement, quand je rencontre des gens de mon âge maintenant, on échange les prochains examens médicaux.
Oui, il faut absolument résister à la tentation de raconter ses bobos, terrible. Parce qu'en plus c'est passionnant. Et on peut tomber sur des gens qui... Voilà. Et donc éviter de fréquenter les blogs médicaux aussi. Alors ça a mis à mi-bout à bout, plus quand même les grasses matinées. Voilà.
Alors c'est qu'il n'y a pas besoin d'équipement culturel du quartier. Parce que tout ça, c'était un long détour pour demander.
Non. Je ne fais pas davantage appel ressources culturelles du quartier qu'avant mon départ à la retraite. Mais j'ai sûrement tort. Il y a des promenades, donc il y a des rencontres fortuites, mais rien de systématique.
Et les informations concernant le quartier?
Alors, en réalité, on n'est pas si branché que ça, on n'est même pas du tout branché à ce qu'on pourrait appeler une vie de quartier, je ne sais même pas. Il y a sûrement un journal du 17e arrondissement, je suis persuadé qu'il existe. Il y a sûrement des tas de choses à faire, il y a comme partout en France, plein d'associations sympathiques, culturelles ou philanthropiques d'ailleurs. Il y a des tas de choses à faire. Ça, pour le coup, je suis un petit peu culpabilisé parce que je n'ai pas du tout inventorié. Par paresse, par lâcheté, par omission.
Par occupation multiple.
Enfin, tout ça, ce sont un peu des prétextes, mais il y a sûrement des tas de choses à faire intéressantes et constructives et altruistes dans le cadre du quartier, ça j'en suis persuadé.
Mais dans le cadre de la France,
aussi.
On n'est pas obligé d'aller dans les associations du quartier.
C'est la solution de proximité. C'est parce qu'on peut en plus y aller à pied, donc c'est bon pour la santé. <C'est trop bien. rire>
Et dernière question, alors tes promenades, c'est des promenades parisiennes?
Alors c'est beaucoup des promenades, oui, des promenades parisiennes avec. Quand on a les échappées. Mais quand je me promène tout seul dans le quartier, c'est complètement aléatoire. C'est complètement aléatoire.
Mais c'est à l'intérieur du quartier. Tu ne
généralement,
décides pas
oui, parce
d'aller
qu'il y a
visiter
une force
d'un coup la place de la Nation.
Ce sont des promenades erratiques et il y a une force de rappel inconsciente qui vous ramène toujours quand même un peu vers l'endroit d'où on était parti. Mon père avait une expression pour désigner l'immeuble. Il disait la yourte originelle. La yourte originelle.
Donc, c'est une jolie expression.
Oui.
Eh bien, dans tes relations avec le quartier, est-ce qu'il y a Paris, plus généralement, un thème qu'il aurait fallu évoquer et...
Mais ce ne sont pas des relations intenses, c'est des relations très, très superficielles, amicales. C'est un quartier que j'aime bien et je l'aime d'autant plus que maintenant c'est ma vie, quoi, et qui définit, qui circonscrit ma vie, mais ça n'est pas intense. Je n'habite pas intensément ce quartier, je m'y sens confortable.
Tu ne vas pas au café du...
Non, il y avait un café où on allait, et pour une sorte de raison, il y a un endroit où j'aime bien aller quand même prendre mon café au lait, mon café crème, quand je n'ai pas là, place Pereire, mais voilà, c'est juste agréable, on ne peut pas dire que ce soit des... ça n'a rien d'intense.
Merci beaucoup. Donc, on va arrêter là. Je crains que le rôti soit ou trop cuit ou sinon que la désespérée ne l'a pas mis à cuire.